Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Déclic, nom masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience, ou les deux.
Salut, c'est Sophie et Juliette de 18h17 Productions, et vous écoutez Le Déclic. Dans ce nouvel épisode, nous avons reçu Margot. Margot est content manager chez TikTok et vit à Londres depuis 3 ans et demi maintenant. Avant de se fondre dans la vie anglaise en y étant aussi à l'aise qu'un poisson dans l'eau, Margot est née et a vécu dans la région parisienne. Ce déclic porte donc sur la décision que certaines personnes prennent d'un jour se lancer et aller vivre à l'étranger. Car Margot n'a pas saisi d'opportunité particulière pour aller vivre dans la capitale anglaise. Elle se l'est tout simplement créée. Salut Margot !
Salut Juliette !
Comment tu vas ?
Écoute, super, et toi ?
Oh bah écoute, ça va très bien, je te remercie. Comme vous l'entendrez, chers auditeurs, effectivement, nous sommes sur une interview via Skype, puisque nous appelons Margot en direct de Londres.
C'est moi, en duplex. Charles de Gaulle.
Margot, qui est notre envoyée spéciale à Londres depuis 3 ans maintenant.
Et oui.
C'est une très grosse
mission. 1er septembre, tu vois. J'aime trop la bonne date exacte.
Ah, j'avoue. En plus, 1er septembre, très scolaire, c'est très bien.
Ouais, hein.
Et justement, Margot, on va parler de tout ça pour nos auditeurs qui veulent savoir sur quoi va porter ce déclic. En fait, on va parler du fait que toi, un jour, tu as décidé de partir vivre à Londres alors que tu n'avais pas forcément beaucoup de plans. Genre, tu ne partais pas pour un emploi ou pour quelqu'un. Tu avais juste envie de déménager à l'étranger. Et c'est quelque chose qui inspire beaucoup de personnes. Puis on est tous, et moi j'en fais partie aussi, n'ayant pas fait d'Erasmus personnellement, moi j'ai toujours eu cette envie de m'expatrier un jour. Et donc toi, tu fais partie des personnes qui se sont dit « Allez, j'y vais ». Et donc c'est de tout ça dont on va parler dans ce déclic.
Yes.
Alors, juste avant, comme tu le sais dans le déclic, on revient toujours un petit peu sur l'avant de nos invités pour apprendre un peu à les connaître et à comprendre ce qui les a menés à avoir ce déclic. Donc moi, j'aimerais savoir, Margot, si tu as toujours été portée sur les langues étrangères, en fait. Je me trompe, non? Parce que tu as fait des études de langues étrangères.
Ouais. Non, j'ai toujours adoré les langues. Je ne sais pas d'où ça vient. Je crois que quelque part, ça vient un peu du truc où, quand j'étais petite, je voulais être hôtesse de l'air. Je trouvais ça trop classe.
Ouais.
Jusqu'à ce qu'un jour ma mère me dise non, mais c'est pas. Enfin, c'est pas ma mère, c'est ma tante qui m'a dit c'est pas si top en vrai. Et qu'en plus, j'ai appris qu'il fallait savoir nager à la perfection et que jusqu'à mes 15 ans, je savais pas vraiment nager.
Ah ouais.
Voilà. Donc, bref, je pense que c'est un peu resté, mais en vrai, j'aime bien les langues, j'aime bien le principe de parler de manière différente un peu à chaque fois. Et surtout, à chaque fois, quand t'apprends une nouvelle langue, t'apprends tellement sur la façon de penser des gens.
C'est clair.
D'être. Et donc, j'ai été très, très langue étrangère. J'ai fait anglais, allemand, italien et latin.
D'accord, ah oui.
Au lycée.
Madame.
Et voilà. Après, j'ai fait 2 premières années, disons-le, de japonais à l'INALCO. Là, c'est un peu des années où, tu vois, j'ai un peu rien foutu parce que j'ai plus découvert de vie sur la vie que sur... le japonais, et l'anglais me manquait vraiment trop. J'aimais trop l'anglais, donc je suis partie en licence de lettres d'anglais, où j'ai pu un peu me spécialiser notamment en art et culture visuelle, et j'ai fait un peu après un master dessus que j'ai pas fini parce qu'entre-temps j'ai commencé à travailler à mi-temps chez Mademoiselle, et j'ai arrêté après le M1 en fait pour être à temps plein chez Mademoiselle.
Et c'est là justement où on s'est rencontrés.
C'est là, c'est exactement là. Où t'as dit d'ailleurs que j'avais une trop belle robe. C'était à mon entretien. J'étais trop...
Oh, trop chou.
Ouais.
C'est fort possible parce que tu es toujours bien sapée.
Oh.
Et du coup, est-ce que c'est les études que tu t'imaginais faire, enfin, ou tu t'es dit, en fait, t'as juste suivi un fil en te disant, bah, en fait, j'aime juste les langues et j'ai envie de faire quelque chose qui a rapport avec les langues étrangères?
Non, vraiment, c'est les études que je voulais faire.
Ouais.
L'anglais, ça m'a trop manqué. En japonais, j'aimais beaucoup. J'aime toujours beaucoup le japonais. J'adore le Japon. J'adore la culture japonaise et notamment la gastronomie. Mais l'anglais m'a manqué cruellement pendant ces... J'ai toujours vraiment aimé, ne serait-ce que la littérature anglaise, et ça me manquait de lire. beaucoup aussi en anglais. Même si je le faisais encore, je trouvais que ça, forcément, comme j'étudiais le japonais, j'avais moins le temps de me focus dessus. Et ouais, non, ça m'a vraiment trop manqué. Donc, très vite, en fait, donc, j'ai toujours aimé Londres, etc. Et je me suis dit, OK, il faut que un jour, je vais partir à Londres. Qu'est-ce qui peut me mettre sur cette voie de partir vivre à Londres? Étudier l'anglais. OK, c'est parti.
Et du coup, tu dis que en fait, tu as arrêté un petit peu ton master pour travailler chez Mademoiselle, mais est-ce que avant tout ça et avant de prendre cette décision de travailler dans le magazine, tu avais un plan de carrière particulier en corrélation avec tes études, outre le fait de vivre à Londres?
Alors, moi, dans mon esprit naïf et enfantin, je m'étais un peu imaginé ce que je voulais faire à la base, ce qui n'était pas si naïf en vrai, parce que j'ai des potes qui ont fini par faire ça de mon ancienne licence. Je voulais faire ma licence, ensuite faire un master d'art et culture visuelle et me spécialiser pour bosser dans les galeries d'art, en fait.
Ah ouais.
Parce que j'ai aussi fait un peu d'histoire de l'art en anglophone, etc.
Ouais.
Et j'aime beaucoup ça. Et c'était un peu mon gros truc, je voulais être soit, voilà, écrire dans la culture, bosser dans la culture, etc., bosser dans une galerie d'art en Angleterre. En fait, le truc, c'est que donc j'ai rencontré mon ex au moment où je commençais ma licence d'anglais. Et lui faisait aussi des études plutôt d'anglais, etc. Et il était en Erasmus à Manchester et on avait toujours tous les deux voulu partir
Ah.
en Angleterre plus tard. Et donc, c'était un peu le but, genre, on finit tous les deux nos études et une fois qu'on a un peu des diplômes en poche, blabla, on peut partir et voilà, trouver un boulot là-bas, quoi.
Et du plus loin que tu t'en souviennes, plus petite encore, genre pendant l'enfance ou la préadolescence, est-ce que tu as toujours eu envie de vivre à l'étranger?
Bon, déjà, j'ai toujours voulu vivre dans une grande ville.
Ouais.
Et je pensais, quand j'étais plus petite, ado, je voulais vraiment vivre à Paris, tout ça, parce que
Ouais.
je vivais en banlieue à l'époque. Je
Ouais.
vivais dans une caserne de pompiers à Aulnay-sous-Bois.
Incroyable ça aussi. Ça c'est t'as vécu des trucs,
C'est
c'est
mon
ouf
petit
aussi.
flex préféré. Et après, j'ai vécu ailleurs en Seine-et-Marne pendant quelques années. Et vraiment, ma mère a toujours dit un truc, c'est nul n'est prophète en son propre pays. Et c'est un peu le truc. Par exemple, mon grand-père est immigré. Bon, lui, c'est réfugié politique, tu vois, de Pologne. Et ma mère, elle, pour devenir un peu heureuse et tout ça, sa seule façon d'être. De s'épanouir, ça a toujours été d'un peu sortir de là où elle était née, de là où d'où elle venait. Et j'ai un peu grandi avec cette idée que pour devenir toi-même et pour t'épanouir, il fallait à un moment apprendre à quitter le nid et à aller explorer, tu vois. Et j'ai toujours voulu vivre dans une grande ville. J'ai fini par vivre à Paris. Et en fait, Paris, c'est pas si grand. Enfin, j'adore Paris, c'est une de mes villes
Non, mais c'est
préférées,
vrai.
etc. Mais c'est pas si grand finalement, c'est assez petit. À Londres, je croise jamais d'ex, par exemple, tu vois, dans la rue. Je croise jamais de. C'est très rare de croiser quelqu'un à Londres, quoi. Pour le croiser, c'est vraiment genre, oh my god, quoi? Alors qu'à Paris, c'est tout le temps, quoi. Donc, c'est vrai que Londres, pour le coup, c'était plus grand. Et forcément, tu vois, quand t'es ado, que tu commences à écouter, tu vois, les Clash et tout ça, et
Ah
que tu te dis, je suis tellement rebelle, j'adore le rock.
ouais.
Et voilà, enfin, les films, les trucs comme ça, j'ai toujours vraiment accroché à la culture anglaise. Et ouais, non, pendant longtemps, je savais que j'allais partir à un moment. Quand j'étais petite, je pensais aussi peut-être partir aux États-Unis. Puis après, tu vois, tu
Ouais.
grandis, tu apprends la politique, tu apprends, oh, pas de sécurité sociale. Non, merci.
Ouais.
Mais ouais, non, j'ai toujours voulu un peu partir ailleurs et tout ça. Et Londres, pour moi, c'était un peu l'option facile, surtout que c'est pas très loin, finalement, etc. Et en
Oui.
même temps, c'est différent, quoi.
C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est le bon chemin entre ne pas être très loin, parce qu'effectivement, surtout quand tu as une famille qui vient du nord de la France et toi en l'occurrence de la région parisienne, avec l'Eurostar, c'est facile de rentrer, mais en même temps, tu as quand même. Déjà, il y a un petit mini décalage horaire, ce qui fait toujours plaisir en te disant qu'il y a un petit truc. Et en plus, tu as toujours cette culture qui est quand même assez différente, quoi. C'est.
Ouais, vraiment. Le truc, c'est qu'à Londres, quand tu marches dans les quartiers, etc., suffit que tu tournes d'une rue et tu as l'impression d'être dans un quartier complètement différent.
Ouais.
Et il y a tellement de cultures et d'émigrés, pour le coup, différents. Il y a des quartiers où moi, j'y vivrai jamais, même si je les trouve super, parce qu'en fait, il n'y a que des Français.
Ouais.
Il y a des quartiers où il n'y a quasiment que des Espagnols, des quartiers où il n'y a que des Polonais. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et il y a une richesse. De culture qui est vraiment particulière, je trouve, quoi, à Londres, j'aime beaucoup.
C'est une très bonne question que Sophie Rich a rajoutée, c'est que t'as toujours, donc comme tu le disais là, t'as toujours été imprégnée et amoureuse de la culture anglo-saxonne. Et est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir de crush que tu as eu dessus? Est-ce que c'était en regardant une série anglaise ou, comme tu le disais, en écoutant les Clash, ou est-ce que c'est en y passant une journée peut-être?
Je pense que mon vrai tout premier crush, ça a été en regardant Notting Hill et Bridget Jones, qui s'est respectivement au Borough Market. Quand même, elle a un appart au Borough Market, qui est le plus gros flex. J'ai vu un TikTok l'autre fois qui disait ouais, le plus gros truc hallucinant de Bridget Jones, c'est d'essayer de nous faire croire qu'elle a la loose alors qu'elle a un appart au Borough Market et qu'il y a deux mecs qui lui courent après, et c'est Hugh Grant et Colin Firth. Elle est plutôt bien, tu vois. Elle est bien, elle a une bonne carrière, elle n'a pas de ouf. Elle est OK.
Non, mais c'est comme dans Friends, hein, c'est pareil. Hein, finalement, ils sont soi-disant fauchés, mais ils ont quand même un appartement avec une énorme verrière en plein Manhattan. Je suppose dans Midtown. Voilà.
Donc bon. Non, voilà, ça a été mes premiers crushs, ouais. Ces films-là. Quatre mages, un enterrement, tu vois, des trucs comme ça. Oui. Et puis, évidemment, bah, les premières visites que j'ai faites, c'était vraiment tellement parfait. En fait, j'étais tellement heureuse et j'ai eu un crush sur la ville, tu vois. J'avais l'impression d'être chez moi. Ouais. La première fois, c'était du coup avec mon ex. Ouais. Et on était tellement heureux. C'était encore au début, tu vois, le truc en plus en mode « Oh là là, on est tellement amoureux, on est dans la meilleure ville du monde !» Bref, mais la ville était vraiment géniale et ma meilleure amie, elle, vit là depuis 6 ans maintenant. Ouais. 7 ans en vrai. Et pareil, quand je suis venue et que je lui ai rendu visite, pour le coup, j'ai découvert Londres d'une manière un peu différente. Oui. Et ça m'a... Enfin, je m'en doutais déjà, tu vois, que je voulais vivre à Londres et que j'adorais vraiment cette ville, que j'avais vraiment un gros coup de cœur pour la ville. Mais de le voir à travers les yeux de ma meilleure amie qui, elle, connaissait un peu plus le côté vie de tous les jours à Londres et vie simple un peu, j'ai vraiment adoré. Et c'était une évidence que j'allais vivre là un jour, quoi. D'ailleurs, elle était jeune fille au pair au début, quand je lui ai rendu visite. Mm-hmm. C'était sa première année. Et la dame chez qui elle faisait jeune fille au pair avait dit que dans... En fait, Londres, c'était un peu un pays en soi, tu vois. C'est genre, on n'est pas juste en Angleterre, on est à Londres, londonien, tu vois. Et je trouve que c'est vrai, il y a vraiment un truc particulier, quoi.
Mais de toute façon, c'est assez fou... Quand tu y penses, c'est vrai qu'il y a des villes dans lesquelles tu as beau y aller pour la première fois, tu as un sentiment instantané de te sentir chez toi et tu sais que c'est un peu un love at first sight, quoi, ouais, finalement, tu vois. C'est un peu un coup de foudre, mais avec une ville, quoi.
C'est exactement ça. Je me suis sentie exactement comme ça. Rien que, tu vois, les caissières qui t'appellent « my love », alors que ça ne veut pas dire qu'elles t'appellent vraiment « my love ».
Non, mais c'est trop chiant.
Voilà. Mais ça a un côté « lovely ».
Oui. Ouais, non mais rien que l'accent déjà, premièrement, moi ils m'ont eu à l'accent.
Ah, direct. Moi ils m'ont eu à... Oh, il y a un pub plutôt dans le nord-est, apparemment c'est le pub où Jude Law va tout le temps. Ok, oh, mais j'arrive.
Et du coup, je vais rentrer un peu plus dans le vif de ton déclic. Donc comme je le disais au départ, c'est qu'en fait, ce qui est hyper intéressant dans ton parcours, c'est que toi tu n'avais... En fait, les gens, la plupart du temps, attendent d'avoir un plan pour bouger. Toi, tu n'as pas attendu d'avoir un plan, tu as même quitté ton taf, donc c'était chez Mademoiselle. Donc tu étais en rupture aussi, je spoil un petit peu, excusez-moi. Mais effectivement, tu n'es pas parti pour quelqu'un ou pour un job, etc. Tu t'es dit, en fait, la seule chose qui t'a motivé à partir, c'est ton envie de partir. Est-ce que tu te souviens de l'instant où tu as dit, bon, allez, vas-y, j'y vais?
Ouais, alors en fait, j'ai rompu avec mon ex auprès de 5 ans et demi en mars 2017.
Ouais.
Et en avril, mai, je crois que c'était dans ce moment-là, je parlais un peu de mon job, de Mademoiselle et tout. Je me disais, bon, je vais peut-être arrêter, pas encore, je vais partir sûrement en janvier. Voilà. Et puis, en fait, dans la foulée, j'ai été voir ma meilleure amie et j'ai un peu vu des potes à elle, etc., qui me disaient, mais t'as trop raison, fais les trucs qui te font plaisir et tout ça. Et quand je suis rentrée, j'ai pensé, ah mais non, en fait, je ne peux pas rester jusqu'au janvier du tout.
Ça fait beaucoup, ouais.
Et en fait, j'ai parlé à Fab et Clem à l'époque, et je leur ai dit, en fait, non, je vais partir en septembre.
Fab et Clem, qui sont les fondateurs et ex-rédac-chef de Mademoiselle.com, pour ceux qui ne connaîtraient pas.
voilà, donc qui étaient mes managers à l'époque. Mmh. Et je leur ai dit qu'en fait, voilà, j'allais partir en septembre pour aller à Londres et que ça Mademoiselle, ça me convenait plus. J'avais plus envie d'être à fond sur la bouffe. J'étais en train de finir un autre chapitre dans ma vie personnelle et je me suis dit, j'ai toujours eu envie de partir à Londres. En fait, c'est maintenant ou jamais. Si ouais. je ne pars pas là maintenant, je ne le ferai pas parce que je trouverai d'autres excuses, je trouverai un autre truc, etc. Mademoiselle, ça a été un peu une exception, un chapitre spécial dans ma vie qui a fait que du coup, je ne suis pas partie à Londres tout de suite. Mais le plan à la base, c'était Londres. Et d'un coup, c'est comme si j'avais eu la vie qui me disait, par contre, en fait, le principe, c'était de partir à Londres à un moment. Et donc, ouais, voilà, je suis partie. Le 1er septembre, j'ai emménagé à Londres.
Et justement, c'est ça qui est intéressant aussi dans ton parcours, c'est que toi, en fait, tu n'as pas eu d'espèce de déclic. Enfin, on est dans le déclic, donc je ne vais pas dire ça. Mais ça n'est pas arrivé d'un coup. En fait, tu as une espèce de petite graine qui a germé et qui a grandi, qui à un moment a pris tellement de place que tu as eu besoin de partir, quoi.
C'est exactement ça. Et je pense que, bah, tu vois, comme c'est quand tu travailles dans le milieu du web parisien, ça te prend beaucoup et tu perds un peu de vue les trucs que tu voulais faire avant de bosser dedans. Et ouais. puis, en fait, d'un coup, ce que tu as à l'intérieur de toi et ce que tu voulais faire depuis le début revient. Et c'est, je pense que c'est l'important de s'écouter soi, d'écouter ce qu'on veut faire, etc. Et que, bah, au pire, j'y vais, ça marche pas, j'aime pas, ben, je reviens, tu vois. C'est pas un truc où... Je le mets gravé dans la pierre, je pars pour toujours, et si je reviens, c'est un échec. Non, tu vois, au moins j'aurais essayé. Et puis en fin de compte, ben, ça a collé, donc tant mieux. Mais ouais, genre, j'aimais bien l'idée de. C'est aussi mon côté drama queen, tu vois, de pouvoir partir, de tout quitter d'un coup et dire bon, ben, en fait, je pars en septembre. Bye bye!
Et puis tu, ça va, c'est vrai que c'est pas non plus une fatalité, tu t'engages pas dans la Légion étrangère non plus, quoi.
Voilà. C'est pas le bout du monde en plus, c'est
oui
c'est assez, ça va quoi.
Et comment t'as organisé en fait tout ce départ et comment t'as organisé cette nouvelle vie en fait, voilà, à partir du moment où tu t'es dit bon j'y vais et où ça a commencé à devenir réel, comment t'as organisé tout ça?
Alors bon, d'abord évidemment j'ai dû un peu m'organiser avec ma meilleure amie qui elle m'accueillait quand je venais. Elle m'a dit franchement tu viens quand tu peux direct quoi, et j'étais là ok. Je venais du coup de rompre avec mon ex, je devais finir mon contrat chez Mademoiselle, finir un peu mes dernières vacances, déménager. Mon ex était parti de l'appart, donc il fallait que je vide tout l'appart et que je ferme mes comptes en banque, que, que je ferme mon compte d'assurance santé. En fin de compte, il y a eu plein de trucs qui sont passés en même temps. Je suis tombée malade, j'ai eu une infection genre au niveau de la gorge, j'ai eu mon visage qui s'est mis à enfler. C'était ridicule, j'étais malade comme un chien les deux derniers mois où j'étais là. Et il y a plein de trucs que j'aurais dû faire. J'ai pas renvoyé ma box, Freebox. J'ai eu plein de merde. Je devais payer 400 balles. Enfin, après coup, tu vois, une fois que j'étais arrivée à Londres, j'ai complètement pété un câble les deux derniers mois où j'étais là. J'avais genre trois peines de cœur en même temps pour d'autres trucs qui se passaient après. C'était ridicule en fait. Au début, je pensais vraiment que j'allais être hyper organisée. Et en fin de compte, j'ai fini par, tu vois, te faire tous mes cartons en peut-être 2-3 semaines, péter un câble. J'ai fait un vlog d'ailleurs à l'époque où tu me vois être là genre, là c'est vraiment dur, là c'est vraiment chaud quand même, là, j'avoue c'est chaud. Et genre, t'as un flash forward de moi qui suis partie et qui suis chez les parents de ma meilleure amie qui eux sont à Paris. J'ai eu un laps de temps en fait entre mon appart et Londres où j'étais juste chez ses parents. Et je suis... extrêmement chill, j'ai pris une douche, je suis propre et tout va bien. Mais ouais, en fin de compte, ça s'est fait tellement à l'arrache que même maintenant, quand je repense, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris? J'aurais tellement dû me préparer avant. Il y a des trucs à la con que j'aurais dû faire, genre le mec d'EDF, il est pas venu pour faire mon relevé de compteur.
On va peut-être en parler un petit peu aussi de cette situation Brexit qui doit être compliquée aussi pour toi. Mais même avant le Brexit, l'Angleterre avait un statut particulier dans l'Union européenne. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce que tu étais ? Tu avais avant d'avoir ton boulot, par exemple, tu avais quoi ? Tu avais un visa tourisme ou je te demande pour les gens qui seraient éventuellement intéressés pour faire la même démarche que toi.
C'était encore Union européenne à l'époque. Ils n'avaient pas encore quitté l'Union européenne. Ils étaient pour quitter. Et c'était officiel qu'ils allaient quitter, mais ce n'était pas encore fini. Donc, j'étais encore ressortissante Union européenne. Donc, il n'y avait aucun problème au niveau travail, etc. Et maintenant, même maintenant, si les gens veulent déménager en Angleterre, jusqu'à, je crois, la fin de l'année, là, maintenant, si vous déménagez là, tout de suite, aujourd'hui, vous pouvez avoir le pre-settled status si vous avez un travail en Angleterre et que vous venez d'emménager. C'est le truc en attendant que ça fasse. En fait, le settled status, ça veut dire droit de rester dans le pays indéfini,
D'accord.
à l'infini, quoi. Pas genre la nationalité,
Oui,
mais droit de rester dans le pays tranquille.
d'accord.
Et ça, c'est quand on a été en Angleterre pour 5 ans.
OK.
Et moi, en fait, à la date butoir où ça devrait faire 5 ans pour avoir le settled status, ça fera que genre 4 ans ou 3 ans et demi, un truc comme ça. Pour moi, donc, ça compte. Enfin, c'est pas bon. Donc, j'ai le pre-settled status qui est le truc en attendant de faire le settled. Blah, blah, blah. Enfin, c'est un peu
D'accord.
voilà, casse-pied, mais ça va.
OK.
Mais ouais, non, de ce côté-là, il n'y avait pas de problème. Par contre, comme il y avait ce statut un peu bizarre de l'Angleterre, etc., j'avais besoin d'une tonne de preuves pour pouvoir ouvrir un compte en banque.
Ouais.
J'ai jamais pu ouvrir de compte en banque dans les banques officielles énormes et tout en Angleterre.
D'accord.
J'ai eu trop de merde, donc j'ai fini par en ouvrir un avec Monzo. C'est d'ailleurs ce que tous les Anglais ont maintenant, donc c'est pas mal. C'est une app en ligne, en gros, c'est une banque en ligne qui est pas mal et qui est. C'est la première banque en gros qui marche le plus ici, donc.
D'accord.
C'est pas un truc bizarre ou quoi que ce soit. C'est vraiment chouette.
J'ai acheté des bitcoins. Et pour en revenir à ta décision de départ, comment tes proches ils ont appréhendé cette décision? Comment ils l'ont pris, tes parents, tes amis?
Alors, mes amis ont tous trouvé ça cool. Ils ont tous dit, ah mais oui, enfin, c'est toi ton truc, etc. Mes parents s'inquiétaient un peu parce que ça a fait beaucoup de changements pour eux d'un coup.
Ouais.
Où ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle fout? Elle quitte son mec, elle quitte son boulot, elle quitte le pays.
J'avoue que, ouais.
Ils se demandaient un peu si j'avais pas pété un câble ou
Je quitte la terre.
c'est ça. Et en même temps, je pense que pour mon père, comme. En fait, le truc, c'est que ma mère, elle est française de nationalité, mais ses deux parents sont polonais. Et donc, pour ma mère, c'est un peu la Pologne pour moi. Et mon père, pour le coup, dans ma famille, a toujours représenté la France, tu vois. Et le
D'accord.
fait que je parte en Angleterre, je pense que pour lui, ça a un peu fait comme si je rejetais la France et donc lui.
Ah oui,
Alors
d'accord.
que pas du tout, évidemment. Mais je comprends le chemin de pensée qui fait penser à ça. Donc, je pense qu'au début, il s'est un peu inquiété. Il se disait, est-ce qu'elle a l'impression qu'elle trouvera l'herbe plus verte ailleurs, etc.
Ouais.
Tu vois. Pour mes parents, des inquiétudes complètement légitimes, tu vois, que j'aurais eu sûrement si moi, c'était ma gamine qui partait. Mais je pense que pour eux, ça a été un peu difficile au début. Et puis, en fin de compte, ma mère a vraiment compris que je parte. Elle a toujours aussi voulu aller en Angleterre et finalement, je suis née. Donc, elle n'est pas partie et puis elle a été heureuse de la vie qu'elle a eue à la place, etc. Mais elle a toujours compris le côté. Vouloir partir tester des trucs avant voilà avant de se settle down, d'avoir des gamins, de faire une famille, tout ça, quoi.
Et est-ce que tu avais peur, toi? Est-ce que tu as regretté ta décision? Genre, par exemple, quand tu étais en plein rush de départ, est-ce que tu t'es dit, mais quelle idée de merde! Comme ça peut nous arriver quand on prend une décision qui finalement est très cool, mais sur le moment, sur l'organisation, tu te dis que tu as eu une idée de merde.
Pas sur le coup, parce que j'avais tellement hâte d'y être. Je me
Ouais.
disais juste, ça ira mieux une fois que j'y serai, en fait. Après, il y a eu des moments où j'étais un peu. Je me disais, purée, c'est la merde, quoi. De pouvoir trouver un boulot, de pouvoir, tu vois, un peu être bien. Je pense que les moments le plus difficile, c'était un an après être arrivée, où je me disais un peu, bon, c'est un peu chaud.
Bilan, ouais.
Où est-ce que j'en suis? Je m'étais retrouvée encore chez Perrine après, parce que mon premier appart que j'ai eu, ma première coloc à Londres, ma proprio était un peu une grosse conne et
D'accord.
je me suis retrouvée à être virée de l'appart d'un coup
Ah
parce
yes.
qu'elle voulait changer les prix et c'était déjà extrêmement cher. Elle a dit, bon ben si tu ne peux pas, tu dois partir dans 3 semaines. Et moi j'étais là, ok.
Mais quel enfer.
Vraiment, c'était vraiment pourri. Donc je suis partie et j'étais un peu genre, ok, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? Mes amis me manquent un peu, tout ça. Mais en même temps, à chaque fois que je sortais, tu vois, genre, à chaque fois que je sors et que je marche à Londres, que je vois juste la Tamise et que je vois les trucs, je suis contente. En fait, le truc, Juliette, je suis en avec toi, c'est que je suis partie à Londres en ayant quand même avec moi tous les problèmes que j'avais de Paris. Tu vois, partir dans une autre ville, ça supprime pas les problèmes que tu as d'avant. Et je pense que quelque part, une part de moi pensait que ça allait un peu tout arranger magique, alors que ben, pas du tout. Il faut quand même que... C'est pas parce que je me barre d'une ville que mes problèmes disparaissent. Ouais. Je pense qu'il a fallu aussi que je gère tout ça. Mais clairement, je pense que j'ai jamais douté que c'était la meilleure décision d'avoir pris du recul et d'avoir carrément quitté le pays pour gérer tout ça, parce que je sais pas si j'aurais aussi bien géré tout ça depuis Paris que depuis Londres.
Mais de toute façon, on en parlait dans le déclic de Jérémy récemment, qui lui nous a parlé de son voyage en Australie. Et c'est vrai qu'un long voyage ou une expatriation, c'est un peu parfois une fuite en avant aussi, hein, qui est très souvent, la plupart du temps, bénéfique. Mais effectivement, tu as toujours un côté un petit peu... c'est pas très joliment dit, mais fuir ses problèmes après, mais comme tu le dis, il te rattrape toujours, mais c'est aussi pas pour avoir, effectivement, c'est parfois reculer pour mieux sauter, quoi.
Voilà, exactement. Je pense que pour le coup, c'était vraiment ça, et clairement, le fait de pouvoir prendre du recul pour oublier tout ça, pas croiser de gens tout le temps, tu vois.
Ouais.
Vraiment pouvoir... rencontrer d'autres personnes qui connaissent pas cette vie, qui connaissent pas Mademoiselle, qui connaissent pas YouTube, enfin pas le YouTube français, tu vois, etc. Ça m'a fait vraiment du bien, et je pense que c'est exactement de ça dont j'avais besoin. Donc même si c'était difficile et que parfois je me disais est-ce que en fait j'ai raté, que je rencontrerai jamais autant d'amis que j'ai en France, parce que forcément ma vie sociale était beaucoup plus lente au début ici qu'en France. En France, enfin, tu me connais, j'étais sortie tous les soirs, je voyais quelqu'un tous les soirs, etc. Et je suis vraiment très sociable. Et donc, en Angleterre, comme c'était un peu moins le cas, et qu'en même temps, j'emménageais chez ma meilleure amie qui venait de tomber enceinte, c'est, si tu veux, un rythme de vie un peu différent et évidemment des priorités différentes, etc. Et c'était super, d'ailleurs, j'étais vraiment contente d'être avec elle. Mais voilà, en même temps, du coup, on avait... pas vraiment les mêmes vies, etc. Donc ça a été un petit temps d'adaptation et de aussi découverte de moi-même, de qu'est-ce que je fais, qui je suis, qu'est-ce que j'aime vraiment.
Mais d'ailleurs, je vais y revenir après. C'est une question que j'avais notée effectivement sur l'amitié, parce qu'effectivement, qui dit changer de pays dit revoir aussi sa vie sociale. Mais avant ça, je voudrais juste revenir sur quand tu as posé tes valises en arrivant le premier jour. Qu'est-ce que tu as ressenti à cet instant précis ?
J'étais tellement contente. J'étais juste je suis à la maison. Et j'ai posé mes trucs. Il y avait, en fait, Perrine m'avait acheté... Perrine, c'est ma meilleure amie.
Oui.
Elle m'avait offert un collier. Genre, tu vois, Anastasia, sa grand-mère, quand elle lui offre le collier ensemble à Paris, moi, elle me l'a offert avec écrit « Together in London ». Donc, j'ai trop pleuré.
Incroyable ! Et en arrivant, t'as retrouvé, je me souviens que tu as trouvé un job assez rapidement. Est-ce que c'était une démarche qui avait été facile en étant française ?
Franchement, au début, c'était chaud. Enfin, même si, après coup, en fait, c'était rapide. Ouais. Sur le moment, ça passe tellement lentement.
Oui.
Et tu te dis, oh merde, oh merde. Et au début, j'ai commencé à postuler à tout parce que j'avais vraiment besoin d'argent, etc. Et donc, je cherchais à fond. Et puis finalement, j'ai pu trouver ce boulot de copywriter. Pour une marque de lentilles de contact, qui était vraiment chouette. Ce qui m'a aidée, c'était d'avoir fait des études anglaises et en même temps d'avoir une expérience dans le SEO de chez Mademoiselle, etc. Et d'écrire créativement. Et donc voilà, à partir de là, ça a un peu été YOLO, quoi. Mais sur le coup, j'ai un peu paniqué, je t'avoue. J'étais un peu genre... Et puis en fin de compte, j'ai trouvé le job. Je suis arrivée le 1er septembre, j'ai trouvé le job le 10 octobre. J'étais prise au job.
Rapide, hein?
Ouais, vraiment très rapide, quoi. Donc, ça va.
Et enfin, dernière question sur le pendant de ton déclic. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur... Donc, comme tu disais, tu vivais chez ton amie Perrine, qui vit en Angleterre depuis maintenant 7 ans. Et en fait, comment ça s'est passé la recherche d'appart, en fait? Parce que on le sait que Paris est très cher, mais Londres est extrêmement cher. Et comment ça se passe, les visites d'appart à Londres? Est-ce que c'est aussi la jungle qu'à Paris? Comment ça se passe?
Alors, pour le coup, je t'avoue que je n'ai pas tant d'expérience que ça à Paris, parce que mon premier et seul appart à Paris, c'était d'un pote qui... En fait, sa proprio était genre, la seule condition pour que vous partiez tranquille et tout, c'est que vous ayez toujours un remplaçant à chaque fois.
D'accord.
Vous trouviez un remplaçant et du coup, elle fonctionnait un peu à la confiance. La première personne qu'elle avait louée, c'était genre sa fille. Et puis petit à petit, bah, c'était toujours l'ami d'amis d'amis d'amis. Et bah, la preuve, quand je suis partie, je l'ai laissé un pote de confiance totale. Donc, voilà, ça, pour le coup, j'ai pas eu l'ambiance enfer de Paris où faut vraiment avoir 1000 preuves de garant, blabla. Et pour le coup, à Londres, il y a beaucoup moins de. Même si certains proprios demandent de plus en plus de papiers, de preuves, etc., il y a beaucoup moins de problèmes de garant, etc. Tu vois.
D'accord.
Donc, c'est plus simple. Il y a pas mal de sites où tu peux trouver. Par contre, les photos et la réalité sont souvent différentes. Et donc, ça peut arriver de beaucoup, beaucoup, beaucoup visiter et vérifier. Parce que, en fait, en Angleterre, dans les vieux apparts, il y a beaucoup de moquettes, par exemple. Et donc,
OK.
il peut y avoir de la moquette partout, potentiellement.
Ah yes.
Et aussi, il faut vérifier en fonction du quartier, etc. Et donc, ça, c'est un peu compliqué. Et bien sûr, c'est hyper cher. Là, par exemple, je vis dans un appart toute seule de genre 40 mètres carrés, un truc comme ça. Et c'est 1000 balles par mois.
Ouf, ouais.
Hors taxes.
Ouf, ah oui. Ah, parce
Voilà.
qu'il y a des taxes en plus, quoi.
Voilà. Donc, voilà, c'est cher.
Ouais.
Mais c'est un peu plus facile de trouver, je trouve, que si vraiment tu es dans la merde et qu'il te faut une chambre. Et pareil, voilà, du coup, comme c'est cher, c'est surtout des colocs. En général, c'est plus facile si jamais tu es dans la grosse merde et que vraiment il te faut une chambre, tu peux trouver plus facilement que à Paris, je trouve.
Ouais, oui, c'est vrai. Je pense aussi, effectivement. Pareil, Paris, c'est vrai que c'est limite s'ils ne te demandent pas une lettre de recommandation de la sage-femme qui a accouché ta mère, quoi. C'est
Ah,
vraiment.
complètement, complètement. Pédiatre, de ta première maîtresse de petite section, tu vois. Enfin, genre, c'est un peu intense à Paris, mais
Ouais, c'est clair.
à Londres, pour le coup, voilà, c'est un peu plus facile, même si du coup. Le fait que ce soit que de la coloc m'a un peu trauma.
Ouais.
Je peux plus faire de coloc, je pense, là.
C'est vrai qu'on peut en parler un peu. Toi, t'as, en vrai, après, c'est vrai que moi, j'ai pas mal d'amis autres que toi qui vivent ou qui ont vécu à Londres et qui, effectivement, tous, la plupart du temps, même s'ils avaient des bons salaires, parce que c'est vrai que la vie est plus chère, mais les salaires sont plus hauts aussi, vivaient tous en coloc parce que c'est vrai que c'est compliqué de trouver un appartement tout seul à Londres. Donc, ouais, toi, je sais que tu nous en avais un petit peu parlé dans l'épisode de l'apéro. Je vous invite à écouter l'apéro Confino 2. On avait été en duplex de Londres aussi avec Margot qui nous parlait justement de ses colocs qui étaient un petit peu l'enfer.
Oui, non, mais en fait, le truc, c'est que déjà, moi, j'aime bien avoir mon espace personnel et j'avais vraiment besoin d'avoir du temps juste pour moi. Et dans mes anciennes colocs, c'était vraiment pas possible. J'avais un coloc espagnol dans ma première coloc qui criait hyper fort. Il faisait des jeux vidéo jusqu'à hyper tard dans la cuisine et il branchait tous les trucs, tu vois, par-dessus le four. C'était juste impossible. Il jouait jamais dans sa chambre. Ensuite, j'ai eu ma coloc, bah, du coup, où il y avait trois mecs et une meuf, et eux, ils s'engueulaient tout le temps, ils débranchaient la box quand ils s'énervaient entre eux.
Voilà.
Et voilà, c'est un peu compliqué. Et je déteste quand les gens sont trop crades. Et tu vois, encore quand t'es bordélique toute seule, ça va, mais quand c'est quelqu'un d'autre, c'est vite relou. Et eux, ils étaient pires que bordélique, vraiment. Et la maison, c'était insupportable. D'ailleurs, c'était tellement craignos, cette coloc, que je devais payer mon loyer en cash.
Oula.
Ouais. Parce que c'était pas très déclaré, etc.
D'accord.
Et comme il fallait vraiment que je la trouve vite, parce que c'était quand j'étais virée de mon ancien appart, j'ai emménagé et c'était pas si cher le loyer en plus. Donc j'avais dit banco, mais c'était hyper stressant tous les mois de devoir aller retirer, tu vois, 650 balles,
Ouais.
300 balles à chaque fois. J'étais vraiment genre, je vais me faire tuer! Je
Ouais,
vais virer de mon appart parce que j'aurais pas payé! J'ai pas de contrat! Bref, oui, parce qu'en plus il n'y avait pas de contrat, donc c'était un
ouais.
peu, voilà, c'était un peu la merde. Et c'est vrai que depuis que je suis là, au moins, tu vois, en plus ça a été à travers une agence, donc j'ai l'agence qui me protège aussi par rapport à la proprio. C'est quelque chose que voilà, dont j'avais vraiment besoin et je revis clairement depuis que je vis toute seule. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Alors même si parfois j'ai des petits coups de flip où j'écoute tous les bruits et je me dis, ah, il y a peut-être un voleur.
Maintenant, Margot, on en a un petit peu parlé, mais ça fait maintenant 3 ans, presque et demi, que tu es à Londres. Et comment tu te sens aujourd'hui, notamment dans ton nouvel appart dans lequel tu as emménagé il n'y a pas longtemps?
Tellement bien dans cet appart. Bon, évidemment, ma vie n'est pas soudainement parfaite juste parce que je vis toute seule, mais ça a réglé tellement de problèmes.
Et tu as récemment changé de job pour rejoindre TikTok, donc ça veut dire que tu n'es pas prête de revenir en France puisque tu viens de changer de travail, je me trompe?
Exactement. Non, vraiment, je suis pas prête de revenir en France avant un moment, je pense. Ouais, parce que tu vois, moi, j'aime bien tout changer d'un coup à chaque fois. Donc pendant le confinement, j'ai changé de boulot
Ouais.
et j'ai à la suite du coup trouvé cet appart. Et ouais, non, je travaille sur TikTok depuis juillet et c'est chouette.
Trop bien. Et est-ce que tu as envie parfois de revenir un petit peu? Est-ce que parfois tu as des petits pincements outre que pour le saucisson et le fromage?
Bah là, clairement, en ce moment, avec
Ouais.
avec tout ce qui se passe, j'ai hyper envie d'aller en France.
Mmh.
J'ai trop envie de voir ma famille, de voir mes amis.
Ouais.
J'ai vraiment pas envie de venir revivre à Londres,
Ouais.
à Paris, je veux dire. Notamment parce que le harcèlement de rue est vraiment pire à Paris.
Ouais.
C'est vrai que ça n'existe pas à Londres, tu vois, personne n'est parfait, il n'y a aucun truc
Oui.
parfait. Moi, j'ai été à la poste, je me suis fait têter de grosse pute. Bon, bah
Par
voilà,
exemple, bonne ambiance.
des petits cadeaux. Mais non, en vrai, vraiment, ça a complètement changé à Londres. Je sais que je peux sortir et je me dis pas, merde, qu'est-ce que ça va être exactement mon itinéraire de rentrée, qu'est-ce que je vais faire exactement pour pouvoir rentrer chez moi safe. Je prends des bus la nuit et je me dis pas, oh là là, je me fais. Bon, évidemment, tu vois, je me méfie, etc. Mais je me sens beaucoup plus en sécurité qu'à Paris, où je me faisais emmerder à chaque pas que je pouvais faire dehors, à chaque jour, même quand j'étais en pyjama et que j'allais recharger ma Navigo. Enfin, c'était. Je me faisais emmerder, donc. Mais ouais, et c'est le genre de violence qu'il y avait un peu tous les jours, et c'est vrai que je le vis pas à Londres, donc
Bah c'est éreintant, ouais.
ça me manque pas, quoi.
Et je pense qu'effectivement, comme toi, déjà, tu avais cette envie viscérale de partir, plus à être dans cette ambiance-là, je pense que c'est quelque chose que tu devais vivre d'autant plus mal. C'est.
Ouais, complètement, complètement. D'ailleurs, les premières fois que je me suis fait emmerder à Londres, au tout début, dans les premiers mois, c'était par des Français.
Ah yes.
Ouais.
Toujours à la bonne réputation.
Toujours génial. Dont un Français qui m'avait dit, ah, tu parles français? Après que je lui ai dit, mais vous me foutez la honte d'être française. Je dis non, je viens d'apprendre là en 2 secondes. Oh con. Ah oui, pour info, cher Français, il y a beaucoup, beaucoup de Français à Londres
Ah
et
oui.
beaucoup d'anglais qui parlent français. Et donc, c'est pas discret quand vous dites du mal des gens en français.
Ah non, mais oui, parce que il me semble que, pardon, c'est moi. Il me semble que Londres, si je dis pas de bêtises, c'est la sixième métropole de France maintenant, hein, parce qu'il y a tellement d'expatriés français à Londres que.
Ouais. D'ailleurs, l'endroit le plus ouf où être, c'est l'Eurostar, la queue pour l'Eurostar, le vendredi juste avant les vacances de Noël. C'est la France, clairement. Il y a toute la France qui fait la queue pour aller prendre son train. Non, vraiment, c'est particulier comme moment, mais j'aime beaucoup. C'est un peu un côté mystérieux. Oh, elle est toute seule. Où va-t-elle? Peut-être retrouver son amant.
Mais d'ailleurs, au-delà d'avoir réussi professionnellement, tu as aussi réussi à recréer un nouveau cercle d'amis. On avait dit qu'on allait en parler, donc c'est le moment. Donc, en plus de Perrine, ta meilleure amie qui était déjà installée à Londres, comment tu as fait pour te recréer des nouveaux potes, un nouveau groupe de potes?
Ben du coup, grâce à Perrine, j'ai rencontré ses amis. Ça a été déjà sympa. Et des connaissances à elle, notamment Marie, qui est une de mes meilleures potes maintenant en Angleterre et dans ma vie tout court, que j'ai rencontrée à un événement de bouffe, évidemment, et qui est maintenant voilà, une de mes plus proches ici, qui est française. Mais au-delà de ça, ben, le travail, évidemment, et puis
Ouais.
des filles qui me suivaient sur Instagram.
Ah, génial.
Ouais, des filles, une ou deux filles notamment, qui me suivaient sur Instagram depuis un moment. Et puis en fin de compte, on a été boire un verre, tu vois, pour un peu se rencontrer à Londres, etc. Et puis en fin de compte, bah, on s'est super bien entendus et on s'est retrouvés à être amis. Ou même, il y a aussi certaines filles de Twitter que je suivais depuis des années,
Génial.
qui vivaient en Angleterre. Et puis bah, du coup, on est devenus plus proches parce qu'on vivait ici. Et puis bah, finalement, le plus gros truc, c'est le travail, clairement.
Ouais, c'est sûr.
Dans mon ancien boulot, j'étais vraiment la party girl. J'étais même, je faisais partie du social committee, c'était le
Ouais.
comité qui organise les fêtes et les
J'ai.
events. Et du coup, je me suis retrouvée à vraiment bah, rencontrer beaucoup, beaucoup de gens. Et évidemment, je suis restée peut-être 2 ans et demi dans cette boîte. Donc, avec le temps, j'ai vu beaucoup de gens partir, etc. Mais rester mes potes. Donc, c'est devenu aussi des cercles d'amis comme ça. Et clairement, quand t'es expatrié. Et enfin, tu changes de pays, la source numéro un pour rencontrer des gens, c'est le travail, quoi.
Oui, c'est sûr.
Maïdo est d'accord avec moi.
Oui, tout à fait, oui, pardon. Alors, comme d'habitude, dans chaque épisode, vous savez que mon chat hurle. Arrête. Viens ici. Tu peux laisser maman travailler parfois ou il faut que tout tourne autour de toi tout le temps? Ah là là, les enfants, je vous jure. Est-ce que donc tu as parlé des choses qui te manquent pas en France, mais est-ce que parfois la France te manque et sur quels aspects?
Alors oui, Paris me manque beaucoup. La ville en elle-même, j'adore Paris et voilà, ça me manque de pouvoir me balader à Paris, d'aller à Monoprix. C'est débile, mais
ah, je comprends.
La bouffe à Monoprix, tu vois, tout est bon. Quoi. Enfin, il y a en vrai à Londres, il y a vraiment pas à se plaindre niveau bouffe, il y a ouais. Tout. Etc. Et il y a plein de trucs super, mais pour le coup, à Monoprix, il y a des trucs qui me manquent beaucoup. Les gens me manquent, les bars me manquent. Ouais, surtout les gens. La Bretagne me manque.
Ah, je beaucoup.
Ouais, non, c'est vraiment la bouffe, c'est. Il y a des trucs, tu vois, hyper bêtes, mais genre la crème de marron.
Ah bah,
impossible à trouver ici.
Ah, ça m'étonne. Ouais, même dans des épiceries françaises, épiceries fines, machin, tu trouves pas ?
Faut un peu chercher, quoi, mais souvent, bah, déjà, c'est méga cher, tu vois. Ouais. Ça, c'est le truc bête, mais c'est le genre de truc, si je commence à devoir chercher beaucoup, j'en ai moins envie, mais
bah, oui.
Quand tu fais les courses et tout, un petit mardi soir, et que tu te dis, oh, allez, un petit dessert sympa, y a pas de marron suisse ici.
Et quand tu disais que tu n'étais pas prête de revenir, et du coup, comment t'envisages ton avenir ? Est-ce que tu te sens restée à Londres, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans
Ouais, là, franchement, je me sens restée, genre faire ma vie là, quoi.
Trop bien.
Si possible, plus tard, tu vois, faire pour avoir la double nationalité. D'ailleurs, je dis souvent que si j'avais, tu vois, si je gagnais à Euromillions, auquel je ne joue jamais, imaginons.
J'achèterais plein de marrons suisses.
J'achète la société marron suisse. Non, sûrement, j'achète genre, tu vois, une bonne baraque à Londres.
Ouais.
Une baraque à Paris.
Ah yes.
Et une baraque en Bretagne. Tu vois, genre juste pour avoir 3 points de contact. Ouais, non, je me vois bien faire ma vie. Clairement, ouais. Non, je me vois vraiment ici, quoi.
Et une dernière question, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui a envie de s'installer à l'étranger, et notamment à Londres, évidemment hors crise du Covid, si la situation sanitaire était normale, disons ?
Je dirais franchement, si c'est un truc dont tu as vraiment envie, écoute vraiment ton instinct. C'est vraiment le truc cliché qu'on entend partout, qu'on voit partout, etc. Mais c'est tellement vrai, c'est hyper important, et c'est... Je pense que je préfère encore me dire, ok, c'était pas pour moi, blabla, je pense que c'est mieux de se dire ça plutôt que de se dire « Ah, j'aurais dû, blablabla. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. » Je pense que tu apprends beaucoup sur toi de toute façon et que c'est pas le genre de truc que tu peux faire plus tard, tu vois, souvent. Quand tu as un peu plus de responsabilités ou que d'autres personnes dépendent de toi, c'est plus compliqué. Mais franchement, si t'as l'instinct et t'as le truc intérieur de te dire « J'ai vraiment envie de faire ça, mais fais-le, enfin, direct, quoi. » Au pire, ben quoi, ça marche pas, et puis ben, tu rentres, et puis voilà, c'est comme ça, t'auras essayé, quoi, mais... Franchement, je suis vraiment pour essayer les trucs, surtout quand t'as l'instinct, quoi.
Je suis d'accord avec toi. Je te remercie beaucoup, Margot, c'était hyper intéressant, et hyper à la fois drôle et enrichissant. Je te remercie beaucoup, ça va être un super épisode.
C'est très gentil.
Merci beaucoup, Margot.
Merci, Juliette.
À bientôt.
À bientôt, salut.
Merci d'avoir écouté le déclic de Margot. Vous la retrouverez bientôt dans son épisode de La Chanson. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles. Pour toujours plus de 18h17 production, vous pouvez découvrir nos autres formats, La Chanson donc, mais aussi L'Apéro et Le Jeu de l'Amour, de l'Amitié et du Hasard, notre tout nouveau podcast. D'ailleurs, la semaine prochaine, on se retrouve pour la deuxième partie de notre premier épisode du jeu, qui essaye de décortiquer les sentiments amicaux et de répondre à la question « Pourquoi certaines amitiés durent plus longtemps que d'autres ?» Le prochain épisode du Déclic, quant à lui, sortira dans 2 semaines, soit le mardi 22 décembre. D'ici là, portez-vous bien.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.